Je vous prie de bien vouloir éteindre vos téléphones ou de les mettre sous mode vibreur. N'oubliez pas de donner votre nom et votre organe de presse. Commençons ici à Kinshasa. Oui, première question à ma droite.
Merci, moi c'est Flavien Moussens pour le compte des Planètes Télévisions. Général Abdallah.
Micro. Micro, s'il vous plaît. Bon, peut-être que nous pouvons prendre une autre question à Goma en attendant que la question du micro soit résolue à Kinshasa. Goma? Pardon? Allô, Goma ne nous entend pas? Bon, apparemment, c'est réglé à Kinshasa. Nous reprenons donc avec Kinshasa. Question, s'il vous plaît.
Ok, merci. Moi, c'est Flavien Sens pour le compte de...
Le micro ne marche toujours pas à Kinshasa, donc...
Merci, moi c'est Flavien Sens pour le compte de Planète Télévision. Mon général Abdallah, vous êtes à la tête d'une commission d'évaluation. Vous étiez à Kampala, vous avez vu le M23 et les éléments de M23. Mais aujourd'hui, le gouvernement ougandais a accepté de transmettre tous les dirigeants de M23 devant les instances judiciaires. Quelle est la stratégie sur le plan politique que vous avez de votre commission pour que ces dirigeants-là soient réellement transférés devant la Cour de justice?
Général, vous avez entendu la question?
Non, j'ai entendu parler de justice, d'éléments de M23, mais je n'ai pas très bien saisi le sens de sa question.
Ok, on va lui demander de répéter la question.
Directement.
Je disais ceci. Enfin, le gouvernement ougandais vient d'accepter de transmettre tous les dirigeants des M23 devant la justice. Quelle est votre stratégie ou votre politique sur le terrain pour que ces gens-là soient réellement transférés devant le Cour de justice? Merci.
Mais d'abord, je ne suis pas au courant de ce que vous dites. C'est vous qui me l'apprenez. Et je ne sais pas de quelle justice vous parlez, de la justice ougandaise, de la justice congolaise, de la justice internationale. À ma connaissance, si vous faites référence à la mission que j'ai conduite en Ouganda, c'était une mission qui avait pour objectif d'aller évaluer la situation des ex-M23 qui se sont réfugiés en Ouganda après leur défaite militaire. Nous les avons rencontrés et l'Ouganda nous a demandé de faciliter avec la RDC le retour de ces éléments-là en République démocratique du Congo. Nous avons fait rapport aux autorités congolaises et comme vous le savez, dans le cadre des pourparlers de Kampala conclus par la déclaration de Nairobi, les deux parties ont accepté un certain nombre de choses, notamment que tous ces éléments-là ne seront pas intégrés dans les forces armées ni dans la police nationale congolaise et que ceux qui font l'objet de poursuites pénales ou qui ont commis des violations graves des droits de l'homme ne bénéficieront pas de l'amnistie et devront aller donc répondre de cela devant la justice. Maintenant, pour ceux des éléments à qui il n'est rien reproché, ils vont bénéficier sur une base d'engagement individuel de l'amnistie et pourront ainsi retrouver leur pays et aller dans le processus de DDR pour pouvoir bénéficier du processus de réinsertion. Voilà ce qui a été convenu et conclu. À cet égard, je voudrais dire que les autorités congolaises ont développé un chronogramme qui nous a été officiellement transmis par le ministre de la Défense nationale, chronogramme qui détaille les opérations qui doivent être entreprises afin d'atteindre cet objectif que je viens de vous dire. Comme vous le savez, la loi d'amnistie a déjà été votée, l'arrêté, ainsi que même le formulaire de l'engagement individuel que doivent signer tous les prétendants au bénéfice de cette amnistie ont déjà été promulgués. Il nous reste maintenant, et nous sommes en train de le préparer, de mettre en place la mission conjointe MONUSCO-RDC pour aller rencontrer les autorités ougandaise avec les représentants de ex-M23 et notamment ce monsieur René Abandi qui a été retenu comme interlocuteur point focal pour gérer cette question. Alors vous me parlez de présenter ces gens devant la justice, je ne sais pas de qui vous parlez. Naturellement, pendant notre séjour en Ouganda, les autorités ougandaises nous ont réaffirmé en disant oui, nous les avons interpellés pour dire certains des éléments qui sont réfugiés ici ont commis des violations graves de droits de l'homme. Est-ce que vous serez prêts à les remettre si des mandats d'arrêt contre eux sont faits? Les Ougandais, notamment par la voix du général Wamala, le chief defense staff de l'Ouganda, nous a dit l'Ouganda a signé des conventions internationales, l'Ouganda remplira ses obligations internationales. Voilà ce que je peux vous dire à cet égard. À ma connaissance, en ce qui concerne les autres éléments, de qui n'est rien reproché, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas, le moment venu, pouvoir rentrer à RDC si les accords sont mis en application. Voilà ce que je peux vous dire.
Merci, Général. Une deuxième question à Kinshasa avant d'aller à Goma.
Oui. Merci. Jean-Pierre Kayembe pour RTG FM. Une question au général, enfin une question d'actualité est entrée au génocide rwandais. 20 ans après, on le sait, la RDC paye toujours des lourds tributs de ces massacres de 94, notamment avec les FDLR que vous combattez depuis un temps aux côtés de l'armée gouvernementale, en dépit évidemment de leur volonté de rentrer au Rwanda et discuter avec les pouvoirs de Kigali, proposition qui visiblement n'est pas la bienvenue auprès du pouvoir rwandais. Ma question est de savoir, les Nations Unies, vous qui avez tout un département pour les Grands Lacs, pourquoi n'arrivez-vous pas à offrir vos bons offices aux deux parties, FDLR et le pouvoir de Paul Kagame, pour qu'ils se parlent? La paix oblige, enfin, les retours de la paix oblige, déclaré ce matin sur nos antennes Didier Reynders. Merci.
Monsieur, moi je vous réponds au nom de la MONUSCO, je n'ai pas pour mandat de favoriser, de discuter ou d'entreprendre des négociations dans la région des Grands Lacs. Je suis ici pour exécuter un mandat. Mon mandat, c'est de neutraliser le groupe armé et pour ceux qui veulent déposer leurs armes, de les déposer, de les recevoir et de mettre en place un processus de rapatriement pour qu'ils soient rapatriés dans leur pays. Voilà mon mandat, voilà ce que j'essaie de faire. Si vous m'interpellez par rapport à cela, je peux vous dire ce que la MONUSCO a fait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne les négociations politiques, je ne suis pas compétent pour cela.
Merci. À présent, prenons des questions à Goma.
Ma question, je l'adresse au général Wafi. Je suis Charlie Kassaresa, de la radio Montalisago. J'aimerais savoir pourquoi allez-vous avec la recherche des otages tenus par les ADN, parce que MSF déclare aujourd'hui avoir 4 otages toujours ici.
Ben, je pense que le général commandant la force est là, c'est lui qui est chargé des opérations militaires et il pourra répondre à cette question par rapport aux otages qui seraient détenus par ADF. So he's asking about
The problem of the hostages with the ADF, that in the last two years kidnapped about 600 people.
Le problème des otages qu'on a avec les ADF durant les deux dernières années et qui avoisine les 600 également.
And we have four Congolese MSF workers.
Y compris 4 éléments MSF de nationalité congolaise.
I had opportunity to be yesterday in Goma. In Beni.
J'avais l'occasion hier d'être à Beni.
And I think that they don't have any condition to say what's the final destination of the hostages.
Nous n'avons aucune circonstance de dire quelle est la destination exacte de ces otages.
I saw in the press the statements of the MSF. asking for to be careful with the operation because of the hostage.
Je viens de lire l'article concernant le MSF et sur la protection des otages pendant les opérations militaires.
But it's something that we do normally. They don't need to be concerned because it's a military concern. In this case, of the AGS.
Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la force, c'est quelque chose qu'on fasse, qu'on essaye et qu'on fait normalement pendant toutes les opérations militaires, qui est la protection des populations civiles, y compris les otages.
Mais il n'y a pas de nouvelles informations maintenant, à ce moment. Sur les otages.
Jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune information sur les otages.
Merci, Général. Prenons une deuxième question à Goma. Une deuxième question à Goma.
Victor Bigatti. Oui. C'est Victor Bigatti pour le compte du journal Hebdo de l'Est. Ma question, j'adresse ma question au colonel Bass. Quelle est la leçon à tirer aux affrontements de Beni?
Leçon à tirer. Aux affrontements de Beni.
Quels affrontements, s'il vous plaît?
Alors, pour...
les affrontements de Beni, c'est des années finales.
S'il vous plaît, pour une question de procédure, le général commandant de la force est le seul habilité à parler au nom de la force. Le colonel Bass ne parle que quand le général Santo Cruz n'est pas là. Quand il est là, c'est lui qui est responsable et c'est lui qui donne la position de la force.
Merci beaucoup pour la question. The fight against ADF, the fight against ADF in Beni, everybody knows that it was one different situation because of the terrain, because of the forest, and because of the way the AGF operates in there.
Donc comme vous le savez, la guerre contre les ADF, ça change vu la nature du terrain, vu la nature de l'attaque des ADF, et vu la nature de la forêt et la nature du terrain.
It was supposed to be exactly one fight of guerrilla style. And with ambush inside of the thick jungle.
C'est toujours la nature de la forêt avec les embuscades, avec la jungle qui fait
c'est une guérilla.
C'est une guérilla.
With many traps on the way in this very 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 complex environment, without big routes to the logistic supply.
Avec la nature du terrain, avec la nature des routes et des axes logistiques qui fait des problèmes de logistique sur ce type de terrain.
And then you need to have tactical adaptation to that situation and to change the logistic system as well.
Ce qui exige un changement radical de tactique militaire opérationnelle et en même temps de changement de manière de fourniture logistique sur ce type de terrain.
Very decentralized operation with small groups operating in many different points.
Avec un nombre de groupes énorme et dispersé sur un terrain difficile à traiter.
And we have one route that is about to come Angu.
Nous avons un seul axe qui est Mbao Kamango.
Is the main axe for supplies?
C'est l'axe essentiel de comme axe c'est l'axe essentiel logistique.
We are improved the route even to facilitate the operation.
Et pour la facilitation de ces opérations militaires, notre action est focalisée sur la réhabilitation des axes.
Because the route was in very bad condition.
Puisque les routes ont été dans de mauvaises conditions.
In the center of the area of operation.
Le centre de ces opérations militaires.
Now our engineers are working there. Starting from Bao, going to the Similik Bridge, and then they go to to come over to the border.
Donc nos unités de génie sont en train de réhabiliter les différents axes routiers dans la zone de ligne.
Because only with good roads in here in the country in North Kivu in this operation, we may go with the government, with the FARDC, with the police, with administration. Without roads, it's not possible to say that it's possible to have the state authority exactly in many places.
Donc pour réussir nos opérations militaires et faire régner l'autorité de l'État, les axes routiers sont d'une grande importance.
And then we are there working together with the FARDC and the authorities and police as well in order to defeat the ADF.
Nous coopérons avec les FARDC et avec toutes les organes sécuritaires pour combattre et réussir à la défaite des ADF.
Merci Général. Revenons rapidement à Kinshasa pour deux autres questions. De ce côté-ci, cette fois-ci. Oui, monsieur.
Merci, c'est Vena Voudissa pour la radio-télévision nationale congolaise. J'ai une préoccupation. La première, j'ai deux préoccupations, mais la première, je l'adresse au colonel Félix Bass. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'attaque du groupe armé Mai Mai à Kutumba, dans le sud Kivu, et qui a fait quelques victimes. Mais d'autres sources nous renseignent que ce soi-disant Mai Mai s'est déplacé en vue de leur intégration au sein des forces armées congolaises. Quelle est la situation réelle? Ce n'est pas une façon de décourager là, en les attaquant, en subissant des attaques, de les décourager par rapport à l'intégration au sein des forces armées congolaises. Madame Rosine, j'ai
comme
une question.
Comme nous n'avons plus beaucoup de temps, je vous laisse une question, comme ça on va prendre d'autres questions rapidement. S'il il reste 15 minutes seulement.
Oui,
une question, on laisse au colonel Bass le temps de répondre.
Ok, merci.
Merci pour cette question qui aurait dû être adressée au général Santos Cruz qui est assis de l'autre côté. Mais je m'évertuerai à apporter un brin de réponse. D'abord, cette attaque qui a été lancée par les FARDC contre ce groupe Mai Mai est une attaque lancée contre des déserteurs Mai Mai Yakutumba, ce qui n'a rien à voir avec la dynamique qui est observée aujourd'hui au sud Kivu grâce à l'implication aussi bien des autorités locales mais aussi des autorités administratives et militaires de la RDC, notamment le général Delphin Kahimbi qui est en train de sillonner tout le sud Kivu pour essayer de sensibiliser à la reddition pacifique tous ces groupes Mai Mai qui SM, si vous voulez, le nord Kivu et le sud Kivu, particulièrement dans le territoire de Fizi. Donc je ne pense pas que ça puisse empêcher la dynamique normale de se poursuivre dans la mesure où beaucoup de centres de regroupement ont déjà été mis en place dans l'attente d'une intégration future de tous les groupes de tous ces Mai Mai qui ont exprimé leur volonté réelle d'aller vers le processus. Donc je ne pense pas que ça puisse casser ou briser une quelconque dynamique de reddition de la part des groupes Mai Mai Yakutumba qui, il faut le rappeler, avait aussi exprimé bien avant son intention d'aller à une reddition pacifique, mais qui ne s'est pas jusqu'à présent matérialisée par des actes concrets. Donc ce que je peux vous dire, c'est que les FARDC et les autorités locales administratives de la province de Nord Kivu et la MONUSCO s'impliquent profondément dans cette solution de reddition pacifique des groupes armés afin que la paix puisse revenir dans cette province.
Prochaine question. Oui, juste à côté de vous.
Monsieur Gianni Kabongo de l'agence Univers Plus Média. Je pose la question à M. Sylvestre Modingaï s'il peut m'évaluer l'effectif de réfugiés centrafricains qui se sont réfugiés à l'Équateur, donc c'est-à-dire les civils au jour d'aujourd'hui, les civils, les militaires, je ne sais pas si M. Félix, le colonel Félix Vastes peut en faire les bilans des militaires proposés qui sont en Centrafrique, les chiffres seulement.
Sylvestre,
Par rapport aux réfugiés centrafricains, on avait déjà dépassé la barre de 50 000, mais je ne peux pas vous donner le chiffre là, je ne l'ai pas en tête. au centième près, quoi. Mais on est déjà au-delà de 50 000 réfugiés centrafricains et qui sont non seulement dans la province de l'Équateur, au nord de l'Équateur, mais également au nord de la province orientale. Voilà.
Colonel ?
Pour ce qui concerne, si vous voulez, la présence d'éléments éventuels des ex-FACA centrafricains en territoire congolais, je pense que il y a de cela quelques semaines, le général Wafi, assis là-bas à Goma, avait bien sûr précisé qu'une éventuelle présence était signalée. Mais vous savez, cette situation est prise en compte totalement par les forces armées de la République démocratique du Congo, qui par ailleurs ont déployé un état-major à Bagdolité, justement, pour prendre en compte cet aspect sécuritaire de l'influx de réfugiés que nous avons vu, si vous voulez, un peu à l'ouest de la République démocratique du Congo.
Nous allons prendre une autre question à Kinshasa avant de repartir à Goma. S'il vous plaît.
Central.
Vous êtes trop... Le micro est loin apparemment. Une question de Kinshasa. Faites passer le micro s'il vous plaît. Faites passer simplement. Merci.
Ok, merci. C'est Hakim Kombo pour Kanakin Télévision. Je m'adresse au général Abdallah Wafi. Donc, général, c'est une question d'actualité. Quelle est la lecture que vous aviez faite au niveau de la MONUSCO concernant la récente expulsion des ressortissants congolais au Congo-Brazzaville? Donc, au niveau de la MONUSCO, comment aviez-vous interprété cette expulsion?
Question qui concerne les pays,
c'est ce qui peut être. Mais écoutez, je suis d'abord surpris par votre question. Encore une fois, je dois rappeler que nous ne sommes pas là pour juger les relations bilatérales entre la RDC et la République du Congo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces deux pays africains frères, c'est des pays qui entretiennent à notre connaissance d'excellentes relations. Et nous souhaitons que tout ce qui va se passer entre les deux pays se fasse dans cet esprit de concorde, de fraternité et d'amitié.
Merci, merci général. Nous allons prendre les deux dernières questions de Goma. Goma, s'il vous plaît.
La RTC. Merci, c'est Douvé Oni de la RTC, Goma. Je voudrais que le général nous dise l'état actuel sur la route entre Kiwanja et Windi, où il est signalé des braquages de véhicules qui transportent les populations par, entre guillemets, les FDLR.
Ok, merci beaucoup pour la question. Il y a deux types de problèmes. Il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes de la sécurité publique. Ce type de problème du braquage dans la route, pour nous, les militaires, c'est possible une collaboration. Ce n'est pas possible une opération parce que c'est une opération de police, ce type de problème. Alors, c'est possible pour nous et nous sommes prêts pour collaborer tous les temps avec, contre tous les types de violations de droits de l'homme, de crimes communs. Mais n'est pas possible d'organiser une opération militaire pour combattre ce type de problème.
Merci général. Vous êtes félicité pour votre français à Kinshasa. Vous avez fait des progrès. Prochaine question, toujours à Goma, s'il vous plaît. Je pense que ça va être la dernière question. À Goma.
Merci d'avoir posé de la RTG à Goma. Ma question s'adresse à la Kawasi. Il y a eu l'instruction de l'armée ougandaise à Sarambwe, dans le territoire. Avec, l'on connaît très bien que les accords de Nairobi incluent et ont inséré la MONUSCO au sein du mécanisme de suivi des frontières. Quelle réaction fait la MONUSCO? Parce qu'on n'a pas d'action jusque-là par rapport à cette situation.
Écoutez, je vais, comme vous le savez, vais vous répondre en retournant la question au mécanisme élargi conjoint de vérification. Il y a un mécanisme qui est mis en place par les pays eux-mêmes, avec des représentants, pour pouvoir vérifier ce type d'allégations et faire rapport à cela. Mais il appartient à ce mécanisme de prendre action, de le faire. La MONUSCO ne peut pas se substituer pour aller faire une mission qui est confiée à des organes qui sont là en place. Voilà.
Merci, Général. Nous avons encore 5 minutes. On peut prendre une dernière question à Goma encore. Goma?
Oui, je suis au staff à propos de l'école de Libya. Ma question s'adresse à M. Dos Santos. Quid de l'évolution de la situation de recrutement des jeunes enfants pour rejoindre les groupes musulmans djihadistes, les ADEP, que des sources de la protection des enfants ont montré en date de 7 mars en Libye?
Le problème des enfants de l'ADF. L'ADF, comme tous les groupes armés, il y a des enfants. Hein? Nous savons qu'il y a des enfants dans les groupes armés. Et quand il y a ces problèmes, quand c'est possible, les droits de l'homme, la protection des enfants, hein, va prendre les mesures pour soutenir les enfants. Mais pour nous, la identification, nous avons parlé et travaillé avec les droits de l'homme et la protection des enfants. C'est possible de faire pour nous quand nous savons qu'il y a enfants dans les groupes armés.
Ce que je voudrais ajouter par rapport à cela, je voudrais d'abord rappeler que le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats est un crime extrêmement grave, fait partie et qui est sanctionné très lourdement. La MONUSCO, et cela fait partie de notre mandat, nous continuons à suivre et à documenter le moment venu, ceux des responsables de l'ADF qui seront arrêtés, seront traduits, y compris devant les juridictions internationales. Vous êtes la presse, vous êtes témoin. D'autres sont là-bas, ils rejoindront tôt ou tard ceux qui sont à la haie pour aller répondre pour cela. Je vous le dis. Il y a 10 ans, vous ne l'avez pas cru. Certains sont aujourd'hui là-bas, en train de couper et de nier, de dire qu'ils n'ont jamais fait. Ceux-là, demain, ils vont à la haie, ils ont dit que ce n'était pas eux, alors que nous sommes en train de documenter. Donc, c'est un processus que nous allons suivre. Nos sections sont à pied d'œuvre et le moment venu, ils auront à rendre des comptes pour cela.
Merci, Général. Nous avons encore du temps pour prendre une question à Kinshasa. Oui, vous êtes à côté du micro, alors allez-y.
J'ai Marley Mouma du journal Le Paris. Toutes les boîtes noires d'avions accidentés ont le privilège d'être décryptées. Mais depuis le crash d'avion de la MONUSCO du 4 avril, il s'est écoulé déjà 3 ans, 4 avril 2011, nous n'avons jamais eu droit au décryptage de cet avion. J'ai déjà posé cette question il y a de cela 2 mois, mais je n'ai pas obtenu satisfaction. J'aimerais savoir si on a déjà décrypté cette boîte noire. Si la réponse n'est pas évidente pour aujourd'hui, vous pourrez même me la réserver pour la prochaine rencontre.
Ce que je peux dire à ce moment, alors, le général va réagir.
Non, mais il y a eu plus que le décryptage de boîte noire. Il y a eu le rapport final d'enquête sur cet accident-là. Il est disponible. Le rapport d'enquête de notre avion CRJ qui s'est écrasé à Ngili le 4 avril 2011 est disponible. Les conclusions sont publiques. Le rapport d'enquête est disponible. Donc, le cas échéant, nous demanderons à ceux qui vous soient distribués. Mais c'est une commission d'enquête en bonne et due forme, incluant les représentants de l'aviation civile congolaise, les représentants du fabricant, les représentants de l'avionneur, notamment les Canadiens, puisqu'il s'agissait d'un avion canadien, mais aussi le bureau d'enquête américain. Et c'était un avion de nationalité géorgienne. Ils étaient aussi représentés. Et ils ont procédé à l'analyse de tous les paramètres, y compris des boîtes noires, et les conclusions ont été rendues par rapport à cela.
Merci. Une vraiment ultime question parce qu'il nous reste 2 minutes seulement. Oui, monsieur là-bas. Ah, mais le micro est très loin. Vous êtes loin du micro. On prend. Pardon?
Pour les comptes de Tropicana et Numérica, vous ne semblez pas ignorer qu'il y a le retour des FDLR. Le retour des FDLR, merci beaucoup, dans la partie est, précisément au nord Kivu. Est-ce la MONUSCO confirme cela? Et qu'est-ce que fait la MONUSCO? Merci.
Général Carlos, c'est une question militaire.
Non, la question.
S'il vous plaît, vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît.
Voilà, je disais, on parle des retours des FDLR au nord Kivu. Est-ce la MONUSCO confirme cela ou bien la MONUSCO a déjà commencé à faire quelque chose par rapport à leur retour? Merci.
Vous dites FDLR.
FDLR.
Voilà.
Ah, le retour ou le retour.
Avant que nous allons rendre l'antenne à Radio Capi pour permettre au général de répondre à la question. Général Carlos. Et nous disons au revoir aux auditeurs de Radio Capi. Merci.
L'FDLR. L'FDLR. C'est.